Allez, en place, on va commencer de suite le bazar.
Keanu Reeves dans un trip schizophrénique.
Bruce Willis qui voyage dans le temps.
Une petite main baladeuse.
Vous êtes dans...
Pizza.
3.
Métrage. Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Pizza 3 Métrages, votre émission ciné sur Antenne Doc. Je suis avec Maud et Mathieu, salut à vous.
Salut Thomas.
Salut Thomas, salut Mathieu.
Salut Maud.
On va aujourd'hui, comme d'habitude, vous débriefer, vous chroniquer trois films. Ces films sont Scanner Darkly, J'ai perdu mon corps et Looper. On va justement commencer avec A Scanner Darkly.
T'es un malade, Bob. Faut que tu le saches. Tu te sers de ton métier pour évacuer toute ta merde.
A Scanner Darkly, donc, c'est un film réalisé en 2006 par Richard Linklater. Il a été fait en rotoscopie, ce qui veut dire qu'il a été tourné dans un premier temps avec des comédiens. Donc il y a Keanu Reeves dans le rôle principal, Winona Ryder, Robert Downey Jr. et notamment Woody Harrelson dans les rôles secondaires. Le film est adapté d'un roman de Philip K. Dick qui a été écrit en 1977. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de Bob Harctor, un flic qui est en infiltration dans un groupe de junkies qui sont accros à une substance qui s'appelle la substance mort, the substance D en anglais. Oui, le film est une sorte de film d'anticipation puisqu'il se passe dans une sorte de futur proche. Et donc, ce policier infiltré va rapidement se retrouver à enquêter sur lui-même. Qui veut commencer à parler de ce film?
Eh bien, je vais m'y coller.
Très bien.
Donc, Scanner Darkly. Alors, moi, j'ai trouvé que le film était au niveau de... Voilà, j'ai été perdue plusieurs fois dans le film. C'est complexe quand même. Après, j'ai beaucoup aimé la technique d'animation. Ça, j'ai trouvé ça très fort. C'est même déstabilisant tellement c'est bien fait. Après, l'histoire aussi, en général, j'ai trouvé ça vraiment... Voilà, c'est assez passionnant. Hein, voilà, même si j'étais un petit peu perdue par moments. Donc après, je sais... Enfin, oui, ça parle de beaucoup de choses... les addictions, enfin surtout notamment la drogue dure. Et je sais pas trop. Voilà, ça, j'avoue que c'est pas un film qui m'a. Voilà, j'ai pas. J'en ressortirai pas. Enfin, c'est pas un film que je conseillerais par exemple.
C'est pas possible. Oh non.
D'accord.
Voilà. J'ai trouvé ça pas mal, mais ça m'a pas... J'ai voulu quand même aller jusqu'à la fin pour connaître l'intrigue, parce qu'il y a quelque chose d'intrigant en fait dans le film. On a envie de savoir quand même la suite. Mm-hmm. Mais après, j'ai eu du mal à rentrer un petit peu dedans au début. Mais je sais pas trop quoi dire d'autre sur le film. Je vais laisser la parole à Mathieu.
Ok. moi, c'est un film que j'ai vu depuis longtemps. J'ai revu avec plaisir parce que je trouve que c'est, enfin graphiquement c'est très très beau. Mais après pour en parler c'est un peu plus compliqué parce que du coup cette technique elle prend le dessus, enfin cette technique d'animation elle peut prendre le dessus sur l'histoire un peu. On se dit oui c'est très très beau. Je me suis demandé pourquoi ça avait été fait comme ça aussi. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été un film classique? Bon, je me suis dit aussi que si ça avait été un film classique, j'aurais peut-être pas eu plaisir à le revoir. Et puis voilà, ça amène des possibilités aussi assez intéressantes au niveau de l'animation, au niveau de... Des psychoses de chacun des personnages. Mmh. Il y a des petits effets qui sont assez intéressants dès le début du film, d'ailleurs, dès les premières secondes.
Est-ce que cette première séquence, justement, elle vous a fait sourire? Est-ce que elle a marché sur vous?
Elle a marché sur vous. Il faut un petit temps pour se dire, attends, il a vraiment des petites choses qui se baladent sur son corps. Et très vite on se rend compte que non, c'est tout ça, c'est dans sa tête, hein, vu que son chien est infesté très vite aussi. Enfin bon. Le pitch de départ est clair. Enfin, on va parler de ça. On va parler de psychose. On va parler de ces petites bêtes qu'on a dans la tête. Donc à partir de là, y a tout un champ de possible qui est ouvert avec les autres personnages. Après, c'était des acteurs que j'aimais bien aussi. Enfin, je trouve que le casting est bien choisi. J'aime bien Robert Downey Jr. C'était avant Iron Man aussi. C'était avant qu'il devienne super-héros.
Ouais.
Comme je suis pas du tout fan de super-héros, j'ai pas du tout suivi sa carrière en tant que Iron Man. Mais Bruce Willis. j'ai un peu vite. Keanu Reeves, Woody Harrelson et puis Winona Ryder. Je me souviens qu'à l'époque, Winona Ryder pouvait faire n'importe quoi, mais de toute manière, j'étais fan. Hein,
je te comprends.
Depuis Alien, le Alien de Jean-Pierre Jeunet. Et après l'intrigue. Bah oui, il y a des choses un peu perturbantes.
C'est le but, je dirais même.
Ouais. Bah, c'est pas fait du tout pour te prendre par la main. Ou alors on te prend par la main, puis on te jette dans le fossé. Puis voilà, tu remontes tout seul, quoi.
Sympa.
Ouais. Bah ouais. Bah cette enquête, ce que c'est dit dès le début, hein, qu'il est amené à enquêter sur lui.
Ça arrive très vite, ouais.
Voilà. Donc ça aussi. Comment ne pas rentrer en panique quand tu es dans. Si tu te mets à la place de cette personne-là. Il faut essayer de s'en sortir et c'est assez étrange quand même d'enquêter sur soi, donc de se mettre en situation, c'est-à-dire qu'il enquête sur quelqu'un qui est soupçonné de dealer et de se droguer aussi, ce qui n'est pas forcément ça peut être
l'un n'empêche pas l'autre,
voilà. Donc je pense que c'est un petit exercice pour lui.
C'est un doux euphémisme.
Oui. Effectivement. Voilà. C'est ça que j'ai pris du plaisir à voir ce film. Mais voilà, le côté graphique prend le dessus très très vite.
Oui, complètement.
Et peut-être un peu trop.
J'ai découvert, donc en fait, je n'avais même pas regardé avec qui c'était. Je savais que c'était avec Keanu Reeves, parce que je me souviens du film lors de sa sortie, mais je ne l'avais pas vu. Mais moi, je l'ai vu pour la première fois. Je ne savais pas qui étaient les autres acteurs. Donc, c'est marrant de voir, sans savoir, et en fait, de voir Robert Downey Jr., où on voit tout de suite que c'est lui, Woody Harrelson, direct, avec ses grands yeux. Enfin, Winona Ryder aussi. Enfin, voilà. Puis après, on reconnaît les voix aussi, quand on a l'habitude de les entendre. Mais oui, la technique, en tout cas, la technique, elle est folle. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est très, très bien fait. Rien que pour ça, ça vaut vraiment le détour de voir ce film. Surtout lui, avec son habit de flic, en fait. Hein.
Alors enfin, oui, ça, on peut en parler. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné ça, mais...
C'est plein de personnages qui se suivent, des barbus, des femmes, ça. Enfin, je pense que c'est très dur à expliquer, d'ailleurs, sans l'avoir vu.
Un costume en mode random...
Oui.
Qui permet de préserver son identité secrète.
Voilà.
Pour pas qu'il soit reconnu et que personne sache qui il est dans la vraie vie. Donc c'est un policier qui va maintenir son identité secrète, y compris vis-à-vis de ses propres collègues.
Oui, parce qu'il a son chef, qui est quand même dans le même... il a le même costume, donc voilà, pareil, son identité est cachée. Donc c'est aussi l'attrait du film, hein. On se demande qui sait bien peut se cacher sous cet habit-là aussi, alors qu'on sait que tout de suite, Keanu Reeves, on sait qui c'est tout de suite. Voilà, ça c'est l'intrigue quand même. Et puis après, c'est très bien, très 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 bien fichu.
Eh bien, je vais un peu en parler à mon tour, si vous êtes OK.
Oui, il y avait un truc, si. Sur justement cette. Enfin, il y a un truc qui m'a perturbé, c'est. On ne sait pas. Qui prend cette drogue finalement ? Parce que c'est un peu le commun des mortels, tout le monde.
C'est devenu un peu la drogue principale qui est accessible à tout le monde, qui est pas chère.
Mais du coup, tout le monde aussi, les autorités. Enfin, j'ai l'impression que ça touche un peu toute la population.
Lui, il en prend parce qu'il est...
Il est infiltré.
Il est dans ce truc-là. Après, je ne suis pas sûr. Après, ça, voilà, c'est une drogue quand même qui a l'air d'être vraiment... qui touche des zones irréversibles. Des zones du cerveau, et c'est irréversible.
Particulièrement addictive. Mais on voit aussi qu'il y a quand même une sorte de paranoïa des forces de l'ordre et de la société en général pour... essayer d'éradiquer ce fléau, plutôt ces junkies, parce que c'est même pas la drogue que la société cherche à éliminer, c'est plutôt les junkies, donc les produits de la drogue. C'est un truc qui ressort beaucoup dans le film, c'est aussi cette société un peu paranoïaque, d'ultra-surveillance. Quelques effets que j'ai bien aimés là-dedans, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une séquence où, en fait, la caméra se place comme si elle était une caméra de surveillance. Et on voit les personnages qui partent en voiture, qui vont faire des courses, qui reviennent chez eux, etc., en accéléré. Et ça retranscrit bien cette ambiance où tout est tout le temps filmé, où on a cette impression qu'on est nulle part chez soi, en fait. On est tout le temps à la merci des autorités qui nous surveillent, qui nous rendent aussi paranoïaques. Et je trouve que, du coup, le livre de Philip K. Dick, il était déjà comme ça. Et du coup, il était très en avance sur son temps à parler de cette hyper-surveillance, de ce jugement moral aussi, et du fait qu'on diabolise les junkies, alors que, en tout cas pour moi, et je pense que c'est ce que dit le film aussi, les junkies sont des victimes.
Oui,
et sont tout à pas, fait. Sont pas des monstres, loin de là. C'est vraiment des victimes, et c'est ce que cherche à dire le film. Et pour moi, il arrive de manière assez touchante à parler de ces sujets-là, que ce soit l'addiction ou la santé mentale. C'est un sujet qui me parle beaucoup et qui, à mon avis, sont assez actuels aujourd'hui. On voit bien que la santé mentale des Français, notamment, a été quand même beaucoup impactée par notamment le Covid. Mais pas que, le contexte général joue. Et on retrouve un peu ça, je trouve, dans ce film. Ça parle d'un effondrement d'une personne qui avait... Alors ça, on ne sait pas vraiment quelle était sa réalité avant que l'histoire commence, mais on a quelques pistes qui peuvent nous mettre sur la voie. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a une vie détruite. Il y a une vie détruite. Il y a une raison à ça qui va apparaître au fur et à mesure du film. Mais une vie dramatiquement détruite qui impacte aussi tout son entourage. Et voilà, moi j'ai trouvé ça assez touchant. Il y a des révélations au fil du film. Et je trouve que ça arrive à parler de ces sujets-là avec assez de sensibilité. On sent bien que Philip K. Dick et Richard Linklater étaient eux-mêmes touchés par ces sujets-là, qui ne sont pas faciles à aborder. Je pense qu'il y a assez peu de films qui parlent de cette manière-là, de l'addiction. Souvent, c'est assez manichéen ou parfois un peu trash. Là, je trouve qu'on est un peu plus dans du sensible. On parle de l'intériorité. Et voilà, je peux éventuellement essayer de parler un peu du titre du film et du roman, Scanner Darkly. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Donc c'est dans un monologue que va faire Keanu Reeves à un moment du film. Il se pose la question de ce que voit une caméra, de ce que voit un scanner. Il se demande en fait si elle voit à l'intérieur de lui, parce que lui n'arrive plus à voir à l'intérieur de lui-même. Donc là, clairement, on fait référence à la dépression nerveuse, plus même, puisque lui, il est vraiment dans une sale passe à ce moment-là. Et du coup, il espère que la caméra arrive à voir de manière lumineuse en lui, parce que lui ne voit que de manière sombre. Scanner, Darkly. Voilà.
Ok.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Tu parlais d'une vie détruite. Il y a aussi une prise de conscience. Enfin, moi, j'ai pas senti que c'était un truc qui lui tombait dessus. Il y a aussi une volonté de changement dans sa vie, dans cette petite vie un peu rangée qu'il a. C'est ce que j'ai cru voir dans le film, c'est qu'à un moment donné, il se pose la question de savoir s'il est heureux sous cette forme-là. Donc volonté de changement, et puis bon, après peut-être une perte de contrôle sur cette nouvelle vie, mais le petit passage sur sa vie passée, j'ai l'impression que il y a une vraie volonté de changer le cours des choses, quoi.
Je vois plutôt où il est paumé, quoi.
Ouais.
Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, qui était plutôt paumé, et que, justement, il repense à une vie aussi qui était... Enfin, là, il est complètement... En plus, il est entre deux, c'est-à-dire qu'il se sent... Il enquête sur lui, il a une vie complètement, voilà, de...
Du coup, il est un peu nostalgique de cette vie passée.
Il alterne les deux phases un peu vis-à-vis de ça, ouais.
Oui.
Dans un premier temps, en fait, ça débouche un peu sur une réflexion sur sa maison, notamment son environnement. Oui. Et un coup, il est finalement assez critique, défaitiste, pessimiste sur cette maison, comme si ça n'avait pas de valeur, comme si une maison, finalement, ça ne valait rien. Et après, il a une sorte de prise de conscience. Il se rappelle à quel point ça peut être, tu peux faire quelque chose de bien avec une maison comme celle qu'il possède.
Il parle d'une maison vide, ça ne sert à rien, avec un jardin, avec un... Voilà, il parle de... Voilà, des choses... Et puis quand aussi il a la discussion qu'il a avec Robert Downey Jr. qui lui dit qu'il a mis des caméras chez lui, et il dit mais non, mais c'est chez moi, tu dois... enfin voilà, il est quand même vachement attaché quand même à cette maison.
Ouais, parce que c'est une des rares choses qui lui reste aussi, je pense. C'est aussi, ça parle aussi un peu de ça, de cette solitude qu'on peut ressentir dans les grandes villes. Et, il n'a pas vraiment d'attache, il n'a plus vraiment d'attache. On ne sait pas clairement s'il hallucine pas ou s'il invente pas sa vie précédente. Si ça se trouve, en fait, c'est juste un fantasme qu'il a, il n'a pas de fille. Si ça se trouve, il n'a pas eu de femme, on n'en sait rien. Mais c'est aussi pour ça que sa relation avec Donna, on ne va pas non plus en parler pendant des heures, mais je trouve que sa relation avec Donna est assez complexe, assez intéressante, parce que elle est hyper importante pour lui, en fait. Elle est très importante pour lui, elle est comme un radeau de sauvetage, en quelque sorte. Et voilà, on ne va pas trop développer là-dessus, mais bon, moi j'ai trouvé ça assez sensible et assez touchant. C'est bon pour vous ?
Ouais.
Très bien. Alors, nous allons passer au film suivant. Et ce film suivant, c'est Looper.
La machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée. Mais dans 30 ans, ce sera fait. Dès que ce sera possible, ce sera illégal. Seules les mafias les plus puissantes s'en serviront, en secret.
Tu sais que tu as longtemps été notre plus jeune looper. Il y en avait même qui trouvaient ça ridicule. Ton tromblon était plus haut que toi. Je me souviens quand ils t'ont amené, je sais plus pourquoi on t'avait serré.
Une joaillerie.
C'est ça. Tu cambriolais une joaillerie, une de nos couvertures. Et ils t'avaient attrapé. On aurait dit un genre d'animal, mais ton regard me scrutait. Tu avais la moitié du visage enfoui sous ta tignasse, un œil braqué sur moi, et j'ai tout vu. La version noire de ta vie, comme une vision. Je voyais que si ça continuait, tu tournerais mal. Alors j'ai changé ça. D'abord, et puis je t'ai donné une arme. Je t'ai donné quelque chose qui n'appartenait qu'à toi.
Et je t'en suis reconnaissant.
Je t'ai donné quelque chose qui n'appartenait qu'à toi.
Nous allons donc parler de Looper, et c'est Mathieu qui va s'en charger.
Donc oui, Looper, un film de Rian Johnson. Sorti en 2012, fin octobre 2012, donc il a 10 ans ce film déjà. Au casting, il y a Bruce Willis. Plus besoin de présenter Bruce Willis, hein, qui a été jeune, hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Bruce Willis a été jeune, il a fait d'autres choses avant. On retrouve aussi Joseph Gordon-Levitt. Qu'on a pu voir dans Inception, par exemple. mais d'autres films, ainsi que Emily Blunt.
Elle avait joué récemment dans les films d'horreur avec son mari, Sans un bruit.
Sans un bruit, oui. Ça, c'est plutôt récent. L'histoire. Alors, il faut imaginer un futur proche où le voyage dans le temps a été inventé, mais qui est la mainmise de la mafia et qui se sert de ce système pour envoyer différents malfrats dans le futur pour les dans le passé. Pour les éliminer. Ce qui est assez pratique, hein, vu que dans le passé, ce corps n'existe pas. Enfin, cet être n'existe pas.
Si vous n'avez rien compris, c'est tout à fait normal.
Ouais. Et puis, n'allez pas lire le synopsis d'Allociné, parce qu'on nous dit que le héros principal, donc Joe, va tomber sur lui à un moment donné. Sauf que, en fait, le contrat est signé dès le départ. Chaque looper, donc c'est le nom qu'on donne à ces personnes, connaît déjà la fin. On sait déjà qu'à un moment donné, il tombera sur lui. Mais tout est de savoir quand. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ. Qui veut en parler ?
Je vais m'y coller.
Thomas, oui.
Alors, je n'avais pas vu ce film. J'en avais entendu parler, mais je ne l'avais point vu. Il y a des choses que j'ai bien aimées, d'autres choses que j'ai moins aimées, forcément. J'ai été intéressé par la forme assez littéraire du film. D'ailleurs, je me suis posé la question en le regardant si ce n'était pas une adaptation d'un roman, parce qu'il y a ce narrateur interne à l'histoire, qui a cette voix off, qui nous parle un peu des actions, qui nous prend un peu par la main. Et j'ai trouvé ça assez sympa. En fait, j'ai eu le sentiment pendant une bonne partie du film, pendant peut-être la moitié du film, d'être un peu comme dans un bouquin. Je trouvais ça assez marrant. Donc ça m'a plutôt bien plu. J'ai trouvé que Joseph Gordon-Levitt faisait un bel effort pour ressembler à Bruce Willis. Oui. C'était pas gagné, mais...
Ouais, même au début, je me disais, mais il ressemble... Il a un drôle de visage.
Il me rappelle quelqu'un.
Il a un drôle de visage. J'ai même quand même regardé sur des images quelle tête il avait.
Mais je pense qu'il a été remaquillé ou porté une prothèse.
Surtout la bouche, quoi. Hein. C'est,
ouais.
C'est ça, hein, surtout.
Ouais. Le nez, la bouche,
Le front.
Ouais, bah, le front. Hein, le front.
Ouais, le front, la bouche.
Les mains, les épaules, tout.
Ouais. Non, je rigole. Donc normalement, il est Bruce Willis jeune.
Ouais. C'est ça, il est censé être Bruce Willis jeune. Et je me demande si Bruce Willis, lui aussi, n'a pas essayé de ressembler un peu à Joseph Gordon-Levitt. Bon, c'était moins facile. Mais voilà.
Il y a eu plus de boulot.
Ouais, il y a eu plus de boulot. Ah, il y a un passage quand même capillaire intéressant. Quand on voit l'évolution de Joseph Gordon-Levitt vers Bruce Willis.
Quand on voit Bruce Willis avec des cheveux, déjà.
Ça fait bizarre. Ouais. Mais rien que pour ça, le film vaut le détour. Ouais. On voit Bruce Willis avec des cheveux.
Pourtant, ça dure une demi-seconde. Hein, mais...
Alors, on a tous fait arrêt sur image à ce moment-là. Ouais, j'ai trouvé que le scénario était intéressant. Donc, ça part du principe de la boucle temporelle qui va se répéter sous une forme un peu différente à chaque fois. J'avais jamais vraiment vu de film qui traite les voyages dans le temps de cette manière-là. En tout cas, ça m'a pas sauté au visage, j'ai pas eu de souvenir. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne idée de départ qui est pas facile à c'est pas facile de l'utiliser, je pense, de manière vraiment parfaitement claire et limpide pour le spectateur, enfin d'en faire une intrigue et qui soit très très facile à comprendre. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal à ce niveau-là. Ce qui m'a un petit peu déçu, ou en tout cas que j'ai trouvé pas forcément en accord avec cette histoire, c'était la réalisation et certains choix de production. Je vais m'expliquer un peu là-dessus. C'est-à-dire que j'ai trouvé la réalisation assez neutre, des cadrages qui sont souvent dans les mêmes valeurs, et un petit manque d'audace dans certaines scènes d'action notamment, ou dans certains passages narratifs entre des personnages. Je trouve que le réalisateur est resté un peu tiède, et du coup ça manquait parfois un peu d'intensité, j'ai trouvé. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, ça va un peu dans cette impression que j'ai eue, que les personnages étaient parfois un peu trop lisses, un peu trop uniformes, c'est-à-dire qu'il manquait un peu d'aspérité, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et ça se retrouve un peu dans l'esthétique, où finalement on est dans un futur qui visuellement manque un petit peu d'identité, j'ai trouvé. Manque un peu de pâte, de grain, de ce que vous voulez, mais on est dans quelque chose un peu, voilà, de soit lumineuse, soit très contrastée. Personnellement, j'aime pas beaucoup les ambiances très contrastées ou... Je trouve que c'est très difficile à bien faire, en fait. J'aime beaucoup quand on arrive à bien traiter la pénombre au cinéma, mais c'est vraiment très difficile, je trouve, de trouver le juste milieu. Et voilà, il y a des trucs qui sont sympas malgré tout dans l'esthétique. C'est par exemple l'utilisation des flares. Vous voyez ce que c'est? C'est l'espèce de brillance quand la lumière va dans l'objectif et l'espèce de brillance qui apparaît à l'image. Ça, il a beaucoup mis l'accent là-dessus, le réalisateur. Ça marche pas mal, ça donne un petit cachet quand même au film. Mais je pense qu'ils auraient pu pousser un peu plus là-dedans. Je trouve que l'esthétique, voilà, n'est pas allée au bout de ce qu'elle pouvait proposer. Parce qu'il y avait quelque chose, peut-être, ils pouvaient aller un peu plus loin. Et voilà. Je suis sorti un peu mitigé. Je pense que si vous êtes intéressé par des films qui parlent du voyage dans le temps, c'est un film à voir parce qu'il traite ce sujet-là d'une manière que moi, personnellement, je n'avais jamais vue. Donc voilà, il y a des choses qui marchent très bien, d'autres pour lesquelles je trouvais que ça marchait un petit peu moins bien. Mais malgré tout, l'histoire, même si on n'a pas trouvé un consensus totalement sur l'explication finale, je pense que l'histoire se tient bien malgré tout. Donc voilà. Voilà pour ma pomme. Okay. Maud.
Oui. Alors, moi, j'ai trouvé le... Bah, pareil que Scanner Darkly. C'est le genre de film... Enfin, en fait, voilà, moi, je ne suis pas fan de films de science-fiction du tout. Je me fais un effort hein, pour regarder ce genre de film.
Merci d'avoir fait cet effort.
Je vous en prie.
Oh. Et on va !
Ah ouais, non, mais là, c'est clair. Merci.
Ouais, non, merci. Mais... Ouais.
C'est pas mal, ça, non ?
Ouais, ça va.
Et après, voilà, j'ai passé un bon moment. Après, j'ai trouvé ça très violent, quand même. Mm-hmm. Voilà. J'ai trouvé ça assez violent. Il y a des images quand même très violentes. J'ai trouvé les super acteurs. Alors, en plus, je me souviens, Mathieu, quand tu nous as parlé de ce film-là, tu nous as parlé de l'acteur, l'autre acteur qu'on voit très peu, en fait, finalement, dans le film. Son collègue.
Paul Dano.
Paul Dano.
Ah, voilà. Oui, c'est vrai.
Et en fait, j'étais déçue. Qu'on le voit si peu.
Oui. Ah oui, non, j'ai oublié de dire ça, mais moi, il y a un autre acteur que j'aime beaucoup dans ce film, c'est Jeff Daniels. C'est un de mes acteurs préférés.
Ouais. Oui, mais d'ailleurs, c'est marrant, parce que en fait, le film, il a 10 ans, mais pareil, je me suis dit, oh là là, il a... enfin, ça fait bizarre de voir Jeff Daniels vieux. Mais en fait, il a déjà 10 ans, donc je pense qu'il est encore plus vieux.
Oui.
Mais oui, Paul Dano, j'étais déçue, parce que comme tu nous... Je me souviens, on était venus à ce film-là, on parle de lui, ou quelque chose comme ça. Du coup, bah voilà. Et en fait, je m'attendais pendant tout le film à le retrouver. Donc, bah, j'étais déçue.
Oui, oui.
Voilà, mais sinon, oui, le film, c'est bien fait. C'est vraiment très bien fait. Je pense que la réalisation, tout ça, moi, je trouve ça bien fichu. Jusqu'à la fin, moi, j'avais pas de... Voilà, ça m'a... Je me suis pas dit, ouais... Mais bon, il y a certaines facilités peut-être dans le film, mais jusqu'à la fin, voilà, ça m'a... Je me suis pas dit, ça va se terminer comme ça, en fait. Hein, ça m'a... Voilà. Ça m'a même... Voilà, surprise, quoi. Donc, ça m'a... Oui, ça m'a tenu, en fait, hein, le film. Et voilà, bah Bruce, enfin voilà, c'est un film, voilà, science-fiction, action, il y a vraiment pour tous les goûts, il y a une petite histoire d'amour, vite fait, et voilà, il y a un peu de tous les genres, quoi, c'est, enfin voilà, c'est un film qui...
Je le dis, une histoire d'amour incestueuse, c'est
scandaleux. On y reviendra peut-être.
Ça, c'est Thomas qui dit ça, hein. Avec Mathieu, on n'est pas du tout d'accord.
Alors, la version de Thomas à la fin de l'émission.
Ça ne parle pas d'inceste.
Je vais faire une émission tout seul pour parler de ce film, vous allez voir.
Mais bon, une histoire d'amour dégueulasse,
voilà,
entre guillemets.
Pas du tout.
Mais voilà, bon, il y a toutes les recettes du film d'action. C'est un film, je pense, qui sera vite oublié, en tout cas pour ma part. Mais voilà, j'ai regardé ça avec plaisir, quand même.
Divertissant, quand même.
Divertissant, tout à fait. Mais violent, quand même. Donc, pas si divertissant que ça pour moi.
Très bien.
Ok. Alors moi, c'est un film que j'ai vu et vu et revu parce que le sujet du voyage dans le temps me passionne, on va dire ça comme ça, parce que les acteurs sont attachants aussi. J'en parlais avec Thomas, il y a des fois des films auxquels on s'attache et... on n'a pas forcément d'explication. Enfin, j'ai revu la bande-annonce avant de parler de ce film, avant de vous faire montrer ce film. Et je pense que si j'avais vu la bande-annonce, j'aurais pas été voir ce film. Le film en soi cache beaucoup de choses. Je trouve que Emily Blunt dans le film, je la trouve super costaud. Enfin voilà, elle élève seule un enfant en plein milieu de la campagne.
Elle a quelques problèmes quand même pour dessoucher sa souche dans le jardin.
C'est un exutoire. Hein. Je pense que c'est une manière de se défouler. Il y en a qui vont à la boxe. Elle a une hache et une bille de bois. Et un tronc d'arbre. Je ne sais pas comment on dit ça. l'ambiance générale de cette ferme perdue au milieu des champs de canne, ça m'a parlé. La relation. Elle a un enfant, et puis pareil, l'enfant, je l'ai trouvé super touchant. La relation qu'il crée avec Joe, j'ai trouvé ça assez mignon. Alors, c'est pas mignon dans le sens bisounours, hein, c'est juste c'est très touchant, parce que tu le sens qu'il est un peu... il est méfiant, il est un peu peut-être éventuellement en colère, mais il a Joe arrive à le faire sourire des fois, et ces petits sourires là capter ça au cinéma, tu sens que c'est pas tu demandes pas à un enfant de jouer ça. Tu sens que la personne en face lui a vraiment fait une petite blague, et puis que ce petit sourire, il est hyper sincère et tout.
D'ailleurs, je me permets une petite intermède, mais je sais pas si vous avez vu ce film de Clint Eastwood, Un monde parfait.
Oui.
Kevin Costner.
Tout à fait, Clint Eastwood et Kevin Costner. Ça m'a fait un peu penser, ce passage-là dans la maison au milieu des champs de maïs, ça m'a fait un peu penser à des séquences de Un monde parfait. Où ça vous rejoignez mon ressenti ou je suis fou?
Alors, je sais que j'ai eu le DVD, que j'ai pu le voir et aimer ce film, mais alors là, tout de suite, j'en ai aucun souvenir.
D'accord.
Il est recherché, et en fait, c'est un gamin qui s'attache à ce
preneur d'otage.
Ouais, voilà. Preneur d'otage, et en fait, tous les deux, ils s'attachent l'un l'autre, quoi. Oui, ouais. C'est vrai que...
T'es en train de penser à ça. Si vous connaissez ce film, peut-être que Looper vous intéressera, du coup.
Ouais. Après, dans l'environnement, Thomas, tu parlais je t'ai senti un peu déçu par l'image de ce futur...
C'est vrai, mais je dois reconnaître que je suis particulièrement exigeant sur tout ce qui a trait à l'image, et que je mets souvent le curseur un peu haut, un peu plus haut que la norme, on va dire.
Ouais, et puis on a vu tellement de films... Peut-être, si tu as vu beaucoup de films de science-fiction, on nous a abreuvé de futurs possibles. Et à un moment donné, il y a eu un côté surenchère, quoi. Il fallait montrer des immeubles de plus en plus grands et de plus en plus lumineux. Il est un peu décevant, ce futur. Mais peut-être que notre futur, il sera comme ça. Il sera aussi peut-être un peu décevant.
Il est glauque, surtout, le futur.
Il y a beaucoup de
clochards.
Il y a beaucoup d'inégalités. Les inégalités sont créées. Et les loopers qui gagnent très bien leur vie, ils vivent pas dans des résidences fermées, tout ça. Tout le monde se mélange, mine de rien, parce qu'ils croisent justement les clochards dans la rue, ce petit enfant qui manque de renverser, tout ça.
Moi, j'ai trouvé que ça me manquait juste un peu d'identité. C'est pas... Enfin, de personnalité dans ce futur-là. Je voyais ça, encore une fois, ça venait un peu dans cette idée de lisse où je me suis pas trop projeté dans cet univers, en fait. Mais en fait, c'est pas forcément quelque chose que je recherche seulement dans un film de science-fiction, c'est dans tous les films qu'on ressent une identité dans ce que propose le réalisateur. Là, à mon avis, il a quand même cherché à faire une proposition, mais moi qui m'a pas accroché, c'est-à-dire qu'il a voulu rendre ce futur un peu assez réaliste.
Ouais. C'est un futur très citadin aussi. À la campagne, dans le milieu des champs de canne, le seul détail technologique qu'il y a, c'est ce drone qui va arroser les champs de canne, qui est automatisé. Et sinon, c'est assez pauvre, finalement. J'ai l'impression que c'est surtout les villes qui sont accaparées ce côté technologique. Moi, j'ai trouvé assez drôle, mais je pense que c'est Bruce Willis aussi qui amène l'entrevue dans le diner. Ça amène une petite scène que j'ai trouvé assez marrant. Vous verrez, hein.
On a l'impression que c'est un père qui discute avec son enfant un peu.
Et puis.
Et puis finalement, il n'y a pas vraiment de sympathie Bruce Willis envers son lui jeune et le Bruce Willis, enfin Joseph Gordon-Levitt, et qui n'a pas du tout de sympathie non plus pour son lui futur, quoi.
Bruce Willis, lui, s'en fiche, il a vécu sa vie, donc ça va rien changer. Par contre, le Joe jeune, il a tout à perdre à ce que son lui du futur continue à vivre. Donc lui, il est en mission, il faut absolument qu'il le ramène au patron, sous peine d'avoir quelques petits problèmes au niveau physique.
Niveau santé.
Ça, c'est très bien. Moi, j'ai adoré cette scène avec Paul Dano là qui. Parce que Paul Dano, il lui arrive la même bricole, il lui arrive une bricole, et physiquement, il prend cher. Et
ah oui,
c'est violent, c'est vrai que ça fait mal, hein. Moi ça m'a fait mal, même la première fois que je l'ai vu,
Fait
très très mal.
Moi j'ai bien aimé, c'est vrai qu'il y a une séquence qui m'a plu d'un point de vue de l'idée, en termes d'idée, de créativité, c'est effectivement quand le fugitif de Paul Dano vieux,
voilà, c'est ça.
Se fait rattraper entre guillemets, se fait rattraper petit à petit, et ça c'était bien foutu.
Puis même au niveau du son, enfin c'est assez la toute fin de cette scène, elle est assez sobre et on entend juste le l'encéphalo, enfin tel le petit bip comme quoi Paul Dano n'est pas mort. Donc c'est bien pour lui, mais j'ai pas envie de voir dans quel état il est. Donc ce film, moi je sais pas pourquoi j'aime ce film, mais ça parle de. C'est un futur qu'on peut envisager, c'est des super acteurs. La relation mère-fils. Je trouve ça très très beau, la manière dont c'est amené. Effectivement, il y a une petite romance.
Incestueuse.
Pas revenir là-dessus.
Non, c'est pas incestueux.
Et puis finalement, ce qui m'a plu aussi, c'est de pouvoir parler à son soi du passé ou du futur, selon, et de lui dire ne fais pas ça. Ou fait si, enfin pouvoir aussi peut-être influer sur sa propre vie avec l'expérience du passé. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui m'a plu. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Abe. Donc Abe, c'est le patron, quand il discute avec Joe de savoir. Alors, t'apprends toujours l'italien. Et quand il y a sa petite entrevue. Et au final. Inconsciemment, enfin involontairement,
en anglais,
il influe
demande,
sur
il son. Il apprend le français.
Ah oui, bah oui. Du coup, moi, je l'ai vu en français, je l'ai vu en VF.
Je comprenais pas pourquoi tu
parlais. Oui, je l'ai vu en VF. Mais parce que j'adore la voix de Bruce Willis. Et puis voilà. Bon. Et puis qu'il y a des petites répliques qui sont choquantes. Alors, je sais pas comment ça sonne en anglais, mais quand t'as Abe qui dit mais c'est des petits qu'il faut se méfier. J'adore cette petite phrase. Je l'ai repiquée pour quelques émissions. Voilà. Je n'ai rien à ajouter.
Très bien, le dossier Looper est clos. Nous allons donc passer au troisième film qui est J'ai perdu mon corps.
Seul soleil surplombe tout le soleil. Seul soleil survole nous. Le soleil me dévore quand vient l'aurore. Il m'appelle. Le soleil sait encore comment faire à présent. Yeah.
Oh là là, mais dis donc, il a l'air salement blessé.
Ouais. Fini la branlette.
J'ai eu tout le temps d'apprendre à tirer de la main gauche.
Et on va donc parler de « J'ai perdu mon corps » et c'est Maud qui va nous le présenter.
Alors, « J'ai perdu mon corps », un film de Jérémy Clapin, sorti en 2019. C'est un premier long métrage. C'est un film d'animation, alors pas pour les enfants. C'est un film d'animation pour les adultes, il faut bien le préciser. C'est adapté d'un roman qui s'appelle « Happy End » de Guillaume Laurent, et en fait le scénario du film a été coécrit aussi donc par Jérémy Clapin et Guillaume Laurent, et aussi à noter la musique de Dan Levy, c'est la moitié de The Do. Mm-hmm. Et donc l'histoire
bonne chance.
Ouais, c'est ça qui est compliqué, puis en plus j'ai même pas regardé de résumé, j'aurais dû regarder un petit résumé sur le net. Donc l'histoire, c'est une main qui cherche son corps, comme le titre l'indique. Et en fait, donc il va y avoir des histoires. C'est un flashback, on va dire. Donc cette main qui se souvient de sa vie passée et qui en même temps va chercher son corps. Il s'est passé, il y a eu un accident. Et en même temps, on va voir l'histoire de cette main, donc ce gamin, Naoufel. On le voit enfant. On le voit jeune adulte, un enfant qui a son destin brisé par un accident. Et c'est un film, pour résumer, c'est un film plutôt... C'est très dur. C'est entre cette main quand même qui cherche son corps, donc ça fait aussi science-fiction finalement, mais en même temps très ancré dans la réalité avec l'histoire de cette main... je vais laisser la parole et j'en parlerai après, mais je vais laisser la parole à Mathieu.
Tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça très beau, déjà, graphiquement. Et puis très calme, on va dire, à part cette... Il y a assez peu de moments où on est en panique, où on est en... c'est assez limpide comme histoire. Le Naoufel est comment s'appelle
Gabriel.
Gabriel, merci. Je les trouve très attachants, l'un comme l'autre. Et après, l'histoire de cette main, forcément, c'est fort. Forcément fantastique, cette main sortie de la famille Adams là, qui se balade partout en ville. J'ai trouvé ça très très bien. C'est très bien rendu au niveau animation. On a vraiment l'impression d'avoir un corps à part entière. C'est une main qui peut voir, c'est une main qui peut...
C'est totalement pas crédible ce film. Oui.
Où sont les yeux?
Alors que Looper...
Mais c'est carrément crédible, enfin. Vous y connaissez rien. Mais en fait, ça marche très très bien. Quelle dextérité a cette main pour escalader tout. Après, je pense qu'il y a des choses où je suis passé à côté. Sur une analyse plus approfondie sur... Pourquoi elle recherche ce corps? Pourquoi elle veut absolument rejoindre ce corps? Je me suis posé cette question-là.
On en discutera.
C'est forcément un traumatisme pour Naoufel parce que lui qui veut, il a quand il est petit, il a des ambitions. Sa mère est pianiste, par exemple, donc forcément, ça crée chez lui des petites envies. Pareil, j'ai pas revu la bande-annonce, donc je ne sais pas ce qui est montré au spectateur avant le film. Mais il a quand même quelques rêves d'enfant. Et au final, il se retrouve livreur de pizza. Donc, petite déception.
C'est un super métier, je tiens à le dire.
Il n'est pas très bon, a priori. Non, il y a beaucoup de retard. Il n'est pas trop fait pour ça, non. J'ai passé un bon moment, mais je pense qu'il y a des choses où je suis passé à côté.
D'accord. C'est bon pour toi.
C'est bon pour moi.
Incroyable. Je vais donc prendre le relais. Je rejoins Mathieu sur la beauté, notamment des environnements. C'est quelque chose qui m'a frappé. Je trouve que l'animation est relativement rudimentaire par rapport aux énormes standards que peuvent être Disney ou Ghibli. Mais en fait, c'est pas gênant. Enfin, voilà. Mais par contre, je trouve que les environnements sont vraiment souvent magnifiques. On peut juste la regarder et se sentir immergé dans la scène. Et voilà, malgré cette animation qui cherche pas la fluidité absolue, bah ça se passe bien en fait. Ils ont fait un bon travail sur le character design, notamment. Et j'ai vraiment adoré, comme toi, tous les passages de la main, parce que donc il y a une sorte de récit parallèle. On suit d'un côté la vie de Naofel et de l'autre le parcours de la main dans Paris. Et moi, je suis vraiment hyper client de ces petites séquences de main où il lui arrive plein de péripéties. Ils ont été hyper créatifs dans les situations qu'ils proposent. Entre la scène avec le pigeon, la scène dans l'eau.
Dur, la scène oui. Du pigeon.
Bah, on sent que le réalisateur, il n'aime pas trop les pigeons, je pense.
Avec les rats aussi, dans le métro. Avec les rats, ouais. Ça fait même limite peur, quoi.
Ça fait un peu film d'horreur, ouais. Carrément. Donc ça m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé qu'ils avaient, pour le coup, on sentait bien la patte des créateurs derrière dans ce film. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choix assez tranchés. Et qu'on aime ou pas, ça après c'est à la sensibilité de chacun. Mais on sent qu'ils ont pris des décisions pour qu'on ressente certaines choses. Moi, je trouve en fait que le film est très sensoriel. Et ça va bien, du coup, avec son thème. Enfin, avec son thème et son histoire. C'est-à-dire qu'on sent le toucher, on sent la matière au toucher, on sent les sons.
Les sons, oui. Ouais, le beaucoup. Film, il est quand même beau.
Ouais, il est assez sonore aussi. Les odeurs, ça va être un peu plus compliqué d'en parler. Mais la vue, le toucher, le son... Tout ça, c'est des choses qui, je trouve, sont bien rendues dans le film. On sent la texture, on peut avoir de l'appétit en regardant ce film, un peu, en fait, d'une certaine manière. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré la scène de la traversée du périph, en particulier de la main. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça m'a vraiment plu. Ça m'a bien plu. Ainsi, un petit passage avec quand elle est dans la boîte de conserve. Et elle ressemble à un Bernard Lhermitte.
Oui.
Ça m'a fait beaucoup sourire.
Avec le gamin qui la voit, parce qu'elle n'est pas invisible, cette main.
Elle
n'est
pas invisible. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est un film, moi, qui personnellement, ça m'a fait du bien de le regarder, parce qu'il est relativement léger. En même temps, il y a une forme de profondeur derrière, parce qu'on parle quand même d'un sujet sérieux et douloureux. La perte d'un membre, clairement, c'est un traumatisme. Mais ils arrivent à trouver de la légèreté dans ce récit de la vie de tous les jours, dans ces échanges très réalistes. Je pense que c'est ce que tu disais aussi, Mathieu. Je trouve que dans le rapport notamment entre Gabriel et Naofel, mais aussi avec le formateur de Naofel, il y a une belle réussite en termes de réalisme. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était presque plus réaliste que pas mal de films français, dans les dialogues notamment. Donc... voilà, ça m'a bien plu. Il y a des petits côtés poétiques, assez touchants. En fait, c'était beaucoup plus léger que les deux autres films qu'on a proposés. Donc, ça faisait du bien d'avoir un peu un contre-pied par rapport aux autres. Voilà, c'est un film à la fois lumineux et un peu dans la pénombre. Il y a des jolies choses comme ça. La fin m'a interrogé. La conclusion du film m'a interrogé. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on en parle après, mais j'ai pas trouvé qu'elle tombait mal, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas encore quelque chose à raconter. Voilà, c'est intéressant de couper à cet endroit-là. C'est pas forcément commun, je trouve. Ça m'a un peu surpris, légèrement, mais bon, c'est OK. Enfin, y a pas de... J'ai pas été frustré non plus. Voilà. En fait, je trouve que ça fait du bien de voir des films d'animation qui sortent un peu des standards Disney, Pixar, qui sont toujours un peu dans le même cahier des charges. Ghibli, qui a son propre style. Là, ça fait quelques films d'animation français qu'on sent qu'ils ont leur propre patte à eux, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette aussi. Le film n'est pas très long, enfin, il se regarde facilement. Voilà, donc moi, personnellement, c'est un film que j'ai bien apprécié, qui m'a fait du bien en le regardant, clairement. Par sa légèreté et en même temps aborder certains sujets un peu graves avec finesse. Et des beaux personnages.
Oui.
Je trouve pas beaucoup de personnages, mais tous les personnages qui apparaissent ont de l'épaisseur. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. Si vous voulez, on reparlera de la fin après, mais je te laisse la main, Maud. Oui.
Alors, bah, moi, j'ai conseillé ce film parce que bon, bah, j'ai beaucoup aimé, en fait. Hein, c'est vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, bah, voilà, déjà, cette main qui se souvient, voilà, parce que c'est quand même Naoufel qui a eu bon, son destin brisé par un accident jeune. Et en fait, donc cette main qui... Enfin, je trouve que c'est très symbolique, hein, la main qui... Voilà, on voit plein d'images, ce gamin qui touche le sable, ce gamin qui essaye d'attraper cette mouche, ce gamin qui fait la première fois du vélo. Enfin, voilà, cette main qui est toujours là, en fait, finalement, tout... Voilà. Et donc, bah, voilà, c'est... Enfin, tu parlais du sens, Mathieu, du film, mais c'est cette main qui, voilà, qui cherche en fait finalement la continuité de son corps parce que ben, c'est lui, il lui manque quelque chose, la main il lui manque quelque chose, quoi. Donc d'être un être complet. Et donc, on parlait aussi de quête, voilà. Et donc, ben, c'est de voilà se retrouver. Enfin. J'ai du mal à trouver, en fait, à essayer de trouver, mais voilà, se retrouver entier, en fait, de se retrouver entièrement, quoi, en fait.
Complétude.
Voilà.
Bah, moi, j'ai trouvé que la main cherchait son corps, mais est-ce que le corps cherche sa main ?
Oui, mais on ne le sait pas, parce que quand on revoit, quand la main revoit, il se passe très peu de temps, en fait, finalement, puisque il se passe tout le film, et tout le film, c'est sur ce qui se passe avant l'accident, enfin, un autre accident, parce qu'il y a deux accidents, quand même, dans le film. Voilà, moi, c'est un film qui m'a beaucoup touchée, vraiment. C'est les personnages, voilà, Naoufel qui est complètement, son destin brisé, en effet, et qui, voilà, se retrouver dans un personnage, le livreur de pizza, qui n'est pas du tout lui. Et il va rencontrer aussi, et c'est des personnages assez solitaires. Donc, il va rencontrer Gabriel, qui est aussi assez solitaire, qui est bibliothécaire. Et grâce à cette rencontre avec Gabriel, lui va se trouver aussi un métier. Moi les personnages m'ont beaucoup touchée. J'ai trouvé ça, voilà, c'est un film d'animation, mais en même temps, voilà, j'ai trouvé ça tellement réaliste. Et puis voilà, c'est après voilà cette main qui recherche quand même son corps, ben c'est pas très voilà, on se retrouve quand même dans les bas-fonds des fois des rues, sur les toits avec les pigeons, dans le métro avec les rats, dans les boîtes de conserve, enfin voilà. Et puis c'est un film quand même qui est un peu daté, qui se passe dans une époque un peu ultérieure, parce que bon, bah, on voit qu'il n'y a pas de téléphone portable, de choses comme ça, hein, donc c'est pas un film qui se passe dans les années 2000. Hein.
Je n'avais pas noté ce détail, effectivement.
Et la musique aussi de Dan Levy, qui je trouve joue un rôle vraiment super important. Et la fin, moi j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai beaucoup aimé la fin, puisque c'est... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de la fin.
Mais si. Si vous n'avez pas envie de savoir, c'est le moment de vous boucher les oreilles. Mais si, on peut évoquer la fin, parce que je pense que c'est intéressant.
Bah, c'est la fin. Bon, après, on se doute quand même que la main va retrouver quand même son corps. Et en fait, la main, après, se retire. Et puis, en fait, c'est lui qui va... En fait, Naoufel, qui va trouver un nouvel élan, en fait, finalement, à sa vie, par cet accident-là. Qui va aussi faire le deuil de sa main, moi je trouve voilà c'est une fin ouverte très belle, alors que bon bah c'est pas très gai comme film, j'ai beaucoup aimé la fin.
Bah, je trouve que effectivement le film parle du deuil, mais cette thématique n'apparaît pas tout de suite. Alors, en tout cas, elle est pas évidente tout de suite. C'est aussi qui est pas mal, c'est qu'on peut se demander pendant une bonne partie du film, mais en fait, où est-ce qu'on va exactement, vu qu'on ne sait pas encore tout ce qui va se passer, on ne connaît pas encore la continuité des événements. Et que c'est vrai que c'est en arrivant relativement proche de la fin que j'ai vraiment compris qu'on allait parler finalement du deuil d'un membre, enfin, en l'occurrence. Et ça arrive assez vite, cette conclusion, elle se déclenche assez vite à la fin. Donc ouais, j'ai trouvé ça joli. Je pense que peut-être que j'avais envie que ça se développe un peu plus, d'en savoir un peu plus sur l'avenir de ces personnages. Voilà, on va savoir ce qu'ils allaient devenir.
Ouais, mais justement, c'est ça qui est... Enfin, c'est, finalement, c'est une fin parce que c'est le début de quelque chose aussi.
Quelque chose d'autre. Ouais.
Et voilà. Donc, je trouve que la fin est justement bien trouvée. Parce que sinon, ça aurait été... avoir une fin un petit peu trop classique ou un petit peu... là, au moins, c'est... Et puis voilà, ça se termine sur quelque chose de super positif.
Ouais.
Donc, voilà. Et...
Mais oui. Vous parliez d'environnement sonore, effectivement. Après, Naoufel, jeune, très jeune, a un enregistreur. Donc, c'est vrai que c'est très présent. Il enregistre les feuilles, qu'on retrouve aussi à la fin.
Mmh. Oui, et puis il casse le. Voilà, quand elle écoute. On sait de quoi on parle, puisqu'on a vu le film tous les trois, mais.
Casse la spirale,
quand elle écoute parce qu'il y a des enregistrements de ses parents il enregistre par dessus et c'est aussi c'est super symbolique,
un moyen de tourner la page.
Ouais. Oui.
Et le son du film, vraiment super important, c'est la musique, le son.
Les ambiances, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde?
Oui.
Excellent. Alors, pour boucler l'émission de ce soir, on pensait vous proposer quelques suggestions de films en lien avec ce que nous avons proposé aujourd'hui. Qui a envie de commencer? Thomas, t'as envie de commencer? Ouais, j'ai su. Eh ben, je vais y aller. Pour Scanner Darkly, compliqué, hein, je pense, de trouver des films vraiment très similaires. Donc, on est dans le cinéma d'anticipation assez réaliste. Ce que je vais faire, c'est plutôt vous parler d'autres adaptations de romans de Philip K. Dick. Si vous aimez cet auteur, ça peut être l'occasion de regarder ses films, enfin les films qui ont été adaptés de ses œuvres. C'est un auteur de science-fiction qui a été énormément adapté au cinéma, toujours un peu dans le registre de la science-fiction. L'exemple le plus connu, c'est Blade Runner par Ridley Scott, évidemment.
Le titre de bouquin
Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?
Merci.
Nous avons également Total Recall avec Arnold Schwarzenegger et son remake avec Colin Farrell. Les gens ne le savent pas toujours, mais Truman Show est adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick.
Je ne savais pas.
Et Minority Report, également, ouais. De notre cher Philippe.
Très productif. Hein,
paix à son âme. Très productif. Et personnellement, moi, c'est des romans que j'adore à chaque fois. Donc, si vous êtes friand de science-fiction paranoïaque ou schizophrénique, je sais que vous êtes nombreux dans ce cas-là. allez-y, foncez. Mathieu, est-ce que tu as envie de me faire des suggestions?
Ben oui, moi, je vais garder ce thème du voyage dans le temps. Est-ce qu'on peut le retrouver encore avec un film avec Bruce Willis, hein, L'armée des douze singes, qui m'a mis, que j'ai dû voir plusieurs fois avant de bien imbriquer les petites choses dans le bon sens. Et puis du coup un truc La jetée de Chris Marker. Mais il y a un lien forcément entre les deux. Enfin, je sais plus qui a réalisé L'armée des douze singes, mais
Terry Gilliam.
Terry Gilliam, ben je pense qu'il s'est inspiré de un peu de. Moi, j'ai vu un lien un petit peu des liens avec La jetée, mais et aussi Le voyageur imprudent. Donc c'était plutôt un roman de. De Barjavel. Si vous pouvez le lire aussi, j'ai vu des petites choses. J'ai pas plus de y a rien qui me vient, mais en.
Bon, Interstellar.
Ouais. Retour vers le futur, oui, évidemment, c'est vrai que j'y avais pensé.
Un petit film pas très connu.
Voilà, un petit film d'auteur.
À voir si vous ne l'avez pas vu. S'il y en a
un. S'il y en a qui ne l'ont pas vu.
Ouais. Peut-être une personne.
Ouais. Voilà.
C'est tout pour toi.
Ouais.
À toi, Maud. Bonne chance.
Donc, moi, que dire sur peut-être voilà, parler de films d'animation plutôt pour adultes.
Plutôt pour adultes, par exemple.
Mais j'en connais pas beaucoup. Mais on parlait tout à l'heure, avant l'émission, on parlait avec de La Tortue Rouge avec Thomas. En effet, ça, c'est voilà, un beau film à voir aussi, sans un film muet. Mmh. Et très beau, voilà, vraiment très belles images.
Ouais, je suis d'accord.
Très, très belles images. Et puis, j'avais envie aussi de parler du premier... Enfin, alors, je ne sais pas si c'est son premier court-métrage d'animation, mais Jérémy Clapin, c'est son premier long-métrage, donc J'ai perdu mon corps, mais il avait fait d'autres courts-métrages d'animation, dont un que j'avais vu, qui s'appelle Une histoire vertébrale. Rien à voir avec J'ai perdu mon corps, mais c'est aussi... c'est assez étonnant et assez drôle aussi. Et,
c'est lié au corps un peu ou pas ?
Pardon ?
C'est lié au corps un peu ou pas du
oui,
tout ?
Oui, tout à fait.
Ok.
Et donc ça doit vraiment pas durer très longtemps. C'était à l'agent du court métrage. Est-ce qu'il y a encore ce film? Voilà, mais je le conseille. Ça se trouve, il est visible sur des plateformes de streaming. Et d'autres films d'animation. Bon, c'est Miyazaki, le maître, hein, The Master. Mais ça, c'est. Donc en plus, ce que j'aime chez Miyazaki, c'est que ça parle autant aux enfants qu'aux adultes aussi. Enfin, certains films. Après, il y a des films qui sont peut-être plus durs et plus et moins accessibles quand même pour les enfants. Je parle, Princesse Mononoke ou son dernier, Le Vent se lève, qui clairement pas pour les enfants. Enfin, qui. Et après, j'avais envie aussi de parler d'un autre film d'animation qui est. Alors, qui est peut-être visible par les enfants, mais plutôt, on va dire, plutôt à partir de 10 ans quand même, parce que c'est un peu tristouné aussi, mais drôle. C'est Ma vie de courgette. Mmh. Alors là, c'est pas du tout la même technique. Là, on n'est pas du tout sur du dessin. Là, c'est vraiment du stop motion. Et je sais pas si vous l'avez vu, tous les deux.
Non, c'est Marjane Satrapi.
Non. Ma vie de courgette, c'est... alors, je me souviens plus le nom du réalisateur. C'est un premier aussi.
Je crois que c'est un premier film.
C'est un premier film coécrit avec Céline Sciamma. Et c'est très... Enfin, je le conseille. Alors,
ouais.
Vraiment. C'est pas le film que je vais conseiller après, mais je le conseille quand même. c'est court. Hein, il dure, peut-être 1h05, 1h10. Et c'est très touchant. Pareil, la musique aussi est très... les personnages. C'est adapté d'un roman, hein, d'une BD, d'un album, en fait, pour enfants. Pas jeune enfant, hein, bien sûr, mais... Voilà. Et donc... j'ai pas d'autres. Là, je prends ça. C'est ce qui me vient là tout de suite, et donc j'ai pas d'autres films en tête.
Mais c'est déjà très bien, je trouve. Il nous reste encore à divulguer nos films pour la prochaine fois, n'est-ce pas, Maud? Qu'est-ce que tu vas nous proposer?
Alors moi, je propose un film culte pour moi. C'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma.
Mathieu.
Moi, je vais proposer un film norvégien, parce que je fais deux films américains, donc on va arrêter un peu avec le mainstream. Donc norvégien, ça s'appelle Norway of Life.
Excellent. Et de mon côté, je vais retourner au Japon avec Takeshi Kitano, un de mes réalisateurs fétiches, et son film Zatoichi. Wataya.
Très bien.
C'était un énorme plaisir de passer cette heure avec vous. J'espère que...
Mais pareillement, plaisir partagé.
C'était réciproque.
Tout à fait partagé.
Très bien. Vous étiez dans Pizza 3 métrages, l'émission cinéma, tous les premiers jeudis du mois à 21h. On se retrouve...
En 2023, du coup.
En 2023, exactement. Très bonne soirée à toutes et à tous.
À l'année prochaine.
Et à l'année prochaine.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
À bien vite, ciao.
qui s'aimait, il déteste ça.